Bonjour à tous. C'est un plaisir de vous voir aujourd'hui. Pourriez-vous vous imaginer en train de faire quelque chose comme cela? Passez au chapitre 18 de la Genèse. Pourriez-vous vous imaginer en train de faire ce qui suit? Genèse 18, nous reprendrons au début du chapitre. Genèse 18. C'est le premier livre de la Bible, si vous le cherchez. Genèse, chapitre 18. Nous allons commencer par le début du chapitre. L'Éternel lui apparut, Abraham c'est lui, dans les plaines du Mandré, et il s'assit dans la tente pendant la chaleur du jour. Il faisait donc chaud. C'est un climat désertique. Abraham est donc dans sa tente et il fait chaud. Il leva les yeux et regarda, et voici que trois hommes se tenaient près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de la tente, donc il court, et quand il arrive à eux, il se prosterna à terre et dit, « Mon Seigneur, si maintenant j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne t'éloigne pas de ton serviteur, je t'en prie. Qu'on aille chercher un peu d'eau et qu'on vous lave les pieds, laissez-moi aller chercher de l'eau pour vous et vos hommes, vous avez voyagé. Donnez-vous la possibilité de vous laver les pieds, et reposez-vous sous un arbre. Vous pouvez donc vous reposer ici, sous cet arbre. J'irai chercher un morceau de pain et je vous réconforterai, vous, vos cœurs, du bon pain, je suppose. Après cela, vous passerez, car c'est ainsi que vous venez vers votre serviteur. » Et ils dirent, faites donc, comme vous l'avez dit. Ils avaient donc probablement faim après tout ce voyage. Abraham se hâta d'aller vers Sarah dans la tente et dit, « Préparez vite 3 mesures de fleurs de farine, pétrissez-la et faites des gâteaux sur l'âtre. » Alors maintenant, il recrute. Il se fait aider par sa femme, par Sarah. « Dépêche-toi de faire du pain. » Abraham courut, il court toujours, c'est toute une scène qu'il court. Vers le troupeau, il attrapa un veau et du bon, et il le donna à un jeune homme, il reçoit un peu plus d'aide ici, et il se hâta de l'apprêter. Le jeune homme l'a donc préparé. Il prit du beurre et du lait, et le veau qu'il avait habillé, et le plaça devant eux. Il a donc préparé ce délicieux repas pour ses voyageurs affamés. Il l'a préparé très rapidement, avec du beurre et du lait, et tout ce qu'il fallait. Abraham se tenait près de sous l'arbre, et il mangeait. Il s'est donc tenu là et les a regardés savourer ce repas qu'il avait préparé. Pourriez-vous vous imaginer en train de faire quelque chose de semblable pour des invités? Trois hommes sont venus nous rendre visite, et deux d'entre eux sont allés voir l'eau à Sodome. Passez donc à la Genèse 19. La 19e Genèse se trouve tout près d'ici. Encore une fois, au début du chapitre, deux anges arrivèrent à Sodome. Si vous lisez dans le contexte, il s'agit de deux des hommes, deux des trois qui sont allés voir Abraham, et deux anges arrivèrent à Sodome le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome. Lot, les voyant, se leva pour aller à leur rencontre, et il se prosterna le visage contre terre. Cela ressemble un peu à ce qu'a fait Abraham. Il dit, « Voici maintenant, mes seigneurs, entrez dans la maison de votre serviteur, alors entrez dans ma maison, laissez-moi vous accueillir, et passez la nuit, lavez vos pieds, et encore une fois, ils étaient en voyage, et vous vous laverez de bonne heure, et vous vous en irez. » Ils dirent, « Non, mais nous passerons la nuit dans la rue. Non, nous resterons dans la rue. Pas besoin de nous héberger. » Et lui, Lot, les pressa beaucoup. Ça veut dire, « J'ai cherché. » C'est assez drôle. Ça donne une drôle d'image. Cela signifie picorer avec véhémence. Lot les a donc harcelés. Il les harcela beaucoup, et ils vinrent à lui, « D'accord, nous allons entrer. » Ils vinrent à lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin, il fit cuire des pains sans levain, et ils mangèrent. Feriez-vous ce que Lot a fait pour ses invités ? Abraham et Lot ont tous deux fait preuve d'une hospitalité extraordinaire. Pourriez-vous vous voir ? Je me pose la même question, me verrais-je faire la même chose pour des invités ? L'hospitalité, c'est un mot que nous connaissons tous, mais qui signifie l'acte d'être amical, accueillant et généreux envers nos invités, nos visiteurs ou les étrangers. L'hospitalité, mes frères, est quelque chose que nous connaissons tous. Il peut s'agir d'ouvrir sa maison pour que quelqu'un y passe la nuit. Il peut s'agir de recevoir quelqu'un pour une soirée-jeu. Il peut s'agir de préparer un repas dans votre maison et de l'apporter à cette personne pour qu'elle le savoure. Il peut s'agir de consoler une personne dans le besoin. Il peut s'agir d'un décès dans la famille ou d'une personne qui ne se sent pas bien et que vous consolez, avec qui vous passez du temps dans le besoin, c'est une forme d'hospitalité. Il peut s'agir simplement de rendre service à quelqu'un. Quelqu'un a besoin d'un bon coup de main. Faites-moi plaisir. Rendez-moi service. Ce sont toutes des formes d'hospitalité. Et l'hospitalité, mes frères, est basée sur le fait d'être chaleureux, amical et serviable. C'est l'essence même de l'hospitalité. Avez-vous les compétences nécessaires pour être hospitalier ? Avez-vous des compétences en matière d'hospitalité ? Eh bien, mes frères, nous n'avons pas vraiment le choix lorsqu'il s'agit d'être hospitalier. C'est une compétence. L'hospitalité est une compétence que nous devons posséder en tant que peuple de Dieu. Nous devons l'avoir. Aujourd'hui, je vais donc vous montrer comment être hospitalier. Je commencerai par agrafe une autre question. Abraham et Lot savaient-ils qu'ils servaient des anges lorsqu'ils sont passés sous la tente ou lorsqu'ils sont entrés dans la ville et que Lot les a accueillis dans sa maison ? Savaient-ils vraiment qu'ils servaient des anges ? C'est difficile à dire à la première lecture. On peut supposer qu'ils le savaient peut-être, mais c'est difficile à dire. On ne sait pas nécessairement s'ils le savaient, surtout au début. Peut-être qu'ils le savaient. Mais pourquoi est-ce important ? En quoi le fait qu'ils étaient des anges est-il important ? Consultez le chapitre 13 de l'Épître aux Hébreux. Pourquoi est-ce important ? Pourquoi la Bible indique-t-elle clairement qu'il s'agissait d'anges que les deux hommes ont eu l'occasion d'accueillir ? Hébreux 13, verset 1. Hébreux 13, verset 1. Que l'amour fraternel subsiste. L'amour fraternel est un autre terme pour quoi ? Philadelphie. Être philadelphien. Frères et sœurs, nous sommes le peuple de Philadelphie. Nous sommes des philadelphiens. Nous sommes le peuple de l'amour fraternel. Et il est dit que cet amour fraternel continue. Il nous est donc demandé d'être le peuple de l'amour fraternel, d'être des philadelphes. Et nous ne pouvons pas cesser d'être des philadelphes. Nous devons continuer à l'être. Nous ne pouvons pas l'oublier. N'oubliez pas de recevoir des étrangers, car c'est ainsi que certains ont reçu des anges à leur insu. Et de poursuivre, souvenez-vous de ceux qui sont dans les liens, comme étant liés avec eux. Et de ceux qui souffrent de l'adversité, comme étant vous-même dans le corps. Divertir signifie donc être hospitalier. C'est le sens du mot. N'oubliez donc pas d'être hospitalier. Les gens de l'amour fraternel, en continuant dans l'amour fraternel, n'oublient pas d'être hospitaliers. Les Philadelphiens sont des gens d'hospitalité. Nous ne pouvons pas l'oublier. Nous devons continuer à le faire. Et nous devons être des frères hospitalières envers tout le monde parce qu'on ne sait jamais, vous pourriez héberger des anges. On ne sait jamais. En d'autres termes, traiter tout le monde comme Abraham et Lot ont traité ces hommes, évidemment, dans les circonstances où vous vous trouvez. mais traitez tout le monde comme Abraham et Lot ont traité ses hommes. Voilà le lien. C'est le lien qui est fait ici. Les deux hommes étaient enthousiastes. C'était un effort de groupe. Rappelez-vous, Sarah et le jeune homme ont été impliqués, mais ils étaient désireux de servir, désireux d'être hospitaliers. Maintenant, pourquoi est-il important de savoir qu'ils étaient des anges? Pourquoi est-ce important de le savoir? Pourquoi est-ce utile de le savoir? Les anges sont des êtres très puissants. Ils n'ont vraiment besoin de rien de notre part. Ils n'ont certainement pas besoin d'eau pour se laver les pieds. Ils n'ont certainement pas besoin d'être nourris. Ces hommes n'avaient pas besoin de cela pour survivre. Alors pourquoi est-il important de savoir qu'ils étaient des anges? Cela montre, mes frères, qu'en servant ces hommes qui n'en avaient vraiment pas besoin, l'hospitalité profite autant à la personne qui la donne qu'à celle qui la reçoit, si ce n'est plus. Vous comprenez? Ces hommes n'avaient donc pas vraiment besoin de ce qu'Abraham et Lot avaient à offrir, mais le fait est qu'Abraham et Lot avaient besoin de ce qu'ils avaient à offrir autant, sinon plus, que ces hommes. C'est une chose très, très importante à savoir. Abraham et Sarah, ainsi que le jeune homme, sont ceux qui ont bénéficié de l'hospitalité. Bien qu'ils aient fait preuve d'hospitalité, c'est Lot qui a bénéficié de l'hospitalité, au sens littéral du terme, car lorsque vous continuerez à lire, rappelez-vous ce qui s'est passé cette nuit-là. Ils étaient à la porte. Ils essayaient d'atteindre Lot, et ces anges qui devaient à l'origine rester dans la rue ont fini par lui sauver la vie. Ainsi, la personne ou les personnes qui font preuve d'hospitalité en profitent autant, sinon plus, que celles qui reçoivent l'hospitalité. Dieu veut que nous soyons hospitaliers, mes frères. Consultez le chapitre 19 du Lévitique. Dieu veut que nous fassions preuve d'hospitalité. Lévitique, chapitre 19. Dieu se présente encore à ce peuple, à cette nation d'esclaves. Lévitique 19, nous lirons le verset 33. Une série d'instructions ici. Si un étranger séjourne avec vous dans votre pays, vous ne le maltraiterez pas, vous le recevrez. Mais l'étranger qui habitera chez vous sera pour vous comme un enfant du pays, et vous l'aimerez comme vous-même. Car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte, je suis l'Éternel, ton Dieu. Le mot « étranger » signifie « invité ». Il s'agit d'un invité. Nous pensons souvent à des étrangers et nous parlons d'hospitalité. Nous parlons d'inviter des gens de la rue dans notre maison, de les nourrir. Je suppose que cela peut s'appliquer. Je ne veux pas m'avancer, mais lorsque vous entendez le mot « étranger », il s'agit simplement d'un invité. Ainsi, un invité dans votre maison est considéré, selon la Bible, comme un étranger dans votre maison. Donc, lorsque nous parlons d'étranger et que vous l'entendez tout au long du message, remplacez ce mot par celui d'invité. Mais Dieu dit, divertissez ces invités. Aimez-les comme vous vous aimez vous-même. Rappelez-vous que vous étiez des invités en Égypte et que j'ai pris soin de vous. Prends soin des gens comme j'ai pris soin de toi. N'oublie pas. Dieu dit que nous devons traiter les invités correctement. Nous devons prendre soin d'eux. Deutéronome, chapitre 10. Nous devons prendre soin de l'étranger, prendre soin de ses invités parmi nous. Deutéronome 10. Reprenons au verset 17. Deutéronome 10, 17. Car l'Éternel, ton Dieu, est le Dieu des dieux et le Seigneur des seigneurs, un Dieu grand, puissant et terrible, qui ne fait point exception de personne et qui ne reçoit point de salaire. Dieu s'impose. Il nous dit qui il est. Je suis Dieu. 18. Il fait droit à l'orphelin et à la veuve, et il aime l'étranger, Il aime les hôtes, en leur donnant la nourriture et le vêtement. Il prend soin des hôtes. Aimez donc l'étranger. Il vient de dire, je suis Dieu. J'aime les étrangers. J'aime les invités. Je vous dis, peuple d'Israël, Israël physique ici, Israël spirituel, aimez l'étranger. Prenez soin de vos invités comme je le fais. Car vous étiez des étrangers dans le pays d'Égypte. Une fois de plus, il fait le lien avec l'expérience des enfants d'Israël, qui étaient eux-mêmes des invités, des étrangers, des esclaves pris au piège en Égypte. Une fois de plus, il nous est ordonné d'aimer nos hôtes. Dieu met en avant sa propre réputation en disant, « Je suis Dieu. » Vous vous souvenez? Dieu des dieux. Seigneur des seigneurs. J'aime l'étranger. J'aime les invités. Tu aimes les invités. Pourquoi? Vous étiez des invités en Égypte. Dieu établit cette idée, ce commandement d'hospitalité. Et Dieu y ajoute ses propres actions. Il nous dit de veiller à aimer l'étranger comme je l'aime. Il met ses actes derrière ses paroles. Allez au chapitre 24 de l'Exode. C'est un récit fascinant. Vous le lisez et c'est comme, oh là là. Exode 24, verset 1. Il dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël, et prosterne-toi au loin. Dieu dit donc à Moïse et à ses hommes, les anciens, venez, montez, montez au Sinaï. Il vient de leur envoyer une invitation. Verset 9, ils montèrent, Moïse et Aaron, Nadab et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Ils ont donc accepté l'invitation. Ils virent le Dieu d'Israël, et il y avait sous ses pieds comme un pavé de saphir. Le saphir peut être de différentes couleurs, mais il est généralement d'un bleu clair. Il voit donc le Dieu d'Israël debout sur un pavé de saphir, comme le corps du ciel dans sa clarté. Il se tient donc sur ce pavé clair de saphir, le Dieu d'Israël. Il voit cela. Il ne porta pas la main sur les nobles des enfants d'Israël. Ils ont donc vu le Dieu d'Israël et ils ne sont pas morts. Dieu s'est laissé voir et ils ne sont pas morts. Comme vous le savez, si vous voyez Dieu et que Dieu ne vous protège pas, vous voyez Dieu et vous mourrez. Dans ce cas, il ne les a pas laissés mourir. Et ils virent Dieu, au cas où il y aurait eu un doute, et ils mangèrent et burent. Dieu les a invités. Il les a accueillis. Ils étaient des invités. Dieu a invité des gens à manger. Pensez-y. L'hospitalité n'est pas seulement liée à Dieu, elle est aussi liée à son peuple. Actes des Apôtres, chapitre 2. Rappelez-vous que Dieu dit, « J'aime l'étranger, j'aime les invités. Je veux que vous aimiez les invités. Je veux que vous soyez hospitaliers. » Dieu lie l'hospitalité à son peuple. Dans Actes 2, nous allons lire la naissance, le début de l'Église, le jour de la Pentecôte. La Pentecôte est juste devant nous. Actes, chapitre 2, verset 41. Je vais lire un peu ici. Actes, chapitre 2, verset 41. Ils reçurent sa parole avec joie et furent baptisés. Pierre a donné ce sermon étonnant et le Saint-Esprit a été déversé. Tout le monde est enthousiaste. Ils reçurent sa parole avec joie et furent baptisés. Le même jour, ils s'adjoignirent environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans la doctrine de l'apôtre, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'empara de tous, et les apôtres firent beaucoup de prodiges et de miracles. Tous ceux qui avaient cru se réunissaient et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs propriétés, et les distribuaient à tous, selon les besoins de chacun. Les frères partagent donc entre eux. Chaque jour, ils étaient tous ensemble dans le temple, et, rompant le pain de maison en maison, ils mangeaient avec joie et simplicité de cœur. Vous remarquez qu'il ne leur a pas fallu des années pour comprendre. Vous savez quoi? Nous devons être hospitaliers les uns envers les autres. Nous sommes heureux. Dieu a répandu son esprit. L'Église est née. Ils n'ont pas eu besoin de suivre beaucoup de cours, de conférences ou de sermons pour savoir que nous sommes censés prendre soin les uns des autres, de maison en maison, rompre le pain, passer du temps les uns avec les autres. C'est cela l'hospitalité. C'est cela, l'hospitalité. Hommes, femmes, enfants, tous participants, tous enthousiasmés, paragraphe une idée, cette idée d'être hospitaliers les uns envers les autres. Frères et sœurs, sommes-nous enthousiastes à l'idée de passer du temps les uns avec les autres, d'être en communion les uns avec les autres, d'être hospitaliers les uns envers les autres? L'Église avait une atmosphère d'hospitalité et elle s'est développée. 3000 âmes ont été baptisées dans cet environnement. Lorsque nous sommes hospitaliers, lorsque nous aimons nos invités, lorsque nous aimons l'étranger, l'Église grandit. Dieu est satisfait. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 32. La multitude de ceux qui avaient cru, nous parlons toujours des croyants, n'avait qu'un cœur et qu'une âme. Et aucun d'eux ne disait que ce qu'il possédait lui appartenait en propre, mais ils avaient tout en commun. Nous le relisons. Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Lapsus freudien peut-être? Chacun partageait donc tout ce qu'il avait. Ils avaient tout en commun les uns avec les autres. Ils étaient tous hospitaliers les uns envers les autres. C'est ce que nous voyons depuis le tout début de l'Église de Dieu. Frères et sœurs, nous devons bien sûr poursuivre dans cette voie. Nous devons conserver cette attitude. L'hospitalité est clairement liée, dans ses fondements, au peuple de Dieu. C'est grave, mais plus grave encore, l'hospitalité est liée au salut. Passons à Matthieu 25. Nous allons lire l'histoire des brebis et des boucs. Matthieu 25. L'hospitalité est liée à notre salut, à notre vie éternelle ou, au contraire, à notre mort éternelle. Les brebis et les boucs. Matthieu 25, verset 31. Quand le Fils de l'homme sera venu dans sa gloire, et tous les saints anges avec lui, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Dieu est sur son trône, le Fils de l'homme est sur son trône, entouré d'anges. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il les séparera les unes des autres, comme un berger sépare ses brebis des boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi leur dira, à sa droite, venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger, vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, et vous m'avez recueilli. À quoi cela ressemble-t-il? À quoi cela ressemble-t-il? J'étais nu, et vous m'avez donné des vêtements. J'étais malade, et vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venu vers moi. Maintenant, regardez ceci. Alors les justes répondront. Nous voyons donc que ceux qui ont fait ce qui vient d'être décrit sont appelés justes. Les justes répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim? Quand avons-nous nourri? Quand avons-nous eu soif? Quand avons-nous donné à boire? Ils sont devant le trône de Dieu et le roi leur dit, merci d'avoir fait tout ce que tu as fait pour moi. Et ils se disent, quoi? Quand avons-nous fait cela? Quand avons-nous fait l'une ou l'autre des choses que tu viens de décrire? Quand nous t'avons vu étranger et que nous t'avons recueilli, ou nu et que nous t'avons vêtu, ou malade et que nous t'avons emprisonné, nous sommes allés vers toi. Le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ses plus petits, mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Lorsque nous sommes hospitaliers les uns envers les autres, lorsque nous aimons nos invités et que nous les traitons comme il se doit, nous le faisons pour le roi. Nous le faisons pour Dieu. Puis il dira à ceux qui sont à sa gauche, 41, nous parlons des boucs maintenant. Retirez-vous de moi, maudit, pour aller dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Oh là là! Car j'ai eu faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'ai eu soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas donné de vêtements. J'étais malade, j'étais en prison, et vous ne m'avez pas visité. Ils lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être étranger, nu, malade ou en prison, et ne t'avons-nous pas servi? Alors il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous ne l'avez pas fait aux plus petits d'entre eux, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Ceux-là s'en iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie. Frères et sœurs, il n'y a pas plus simple que cela. Nous devons être hospitaliers. Nous devons aimer les étrangers, aimer nos invités, prendre soin de nos invités. Nous devons le faire. Nous devons avoir des compétences en matière d'hospitalité. Nous devons posséder ces compétences. Nous en avons besoin. Notre vie éternelle est liée à notre capacité et à notre volonté d'être hospitaliers. Voyons quelques bons exemples d'hospitalité. Nous en verrons plusieurs. 1er Roi, chapitre 17. Allons à l'école sur ce sujet. Apprenons-le. J'ai dit aujourd'hui que j'allais vous enseigner comment être hospitalier. Beaucoup d'entre vous le savent. J'en ai personnellement fait l'expérience, où je vous ai vu faire preuve d'hospitalité. 1er Roi 17. Prenons un bon exemple. 1er Roi 17, nous reprendrons au verset 8. 1er Roi 17, verset 8. La parole de l'Éternel lui fut adressée, c'est-à-dire à Élie, en ces termes. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure-y. Voici que j'ai ordonné à une veuve de cette ville de te soutenir, de prendre soin de toi. Il se leva et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à la porte de la ville, voici, une femme veuve était là, qui ramassait des morceaux de bois. Comme elle allait le chercher, il l'appela et lui dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Allez donc me chercher quelque chose à boire et à manger. Je suis ici pour rester avec vous. » Elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai pas un gâteau, mais une poignée de farine dans un tonneau, et un peu d'huile dans une cruche. Et voici que je ramasse deux bâtons, afin d'entrer et de les apprêter pour moi et mon fils, pour que nous les mangions et que nous mourions. Nous n'avons pas grand-chose. Nous n'avons pas grand-chose à partager avec vous. C'est notre dernier repas. » Élie lui dit, « Ne crains rien, va et fais ce que tu as dit. Mais fais-moi d'abord un petit gâteau, et apporte-le-moi, après quoi tu le feras pour toi et pour ton fils. Donne-moi d'abord quelque chose, puis toi et ton fils, vous pourrez manger les restes. C'est une épreuve, mes frères. C'est une épreuve. Vous venez d'arriver, en tant qu'invité, dans ma maison. Vous voulez manger en premier de ce dernier repas. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël, le baril de farine ne se perdra pas, ni la cruche d'huile, jusqu'au jour où le Seigneur fera pleuvoir sur la terre. Et elle y a cru. Elle avait la foi. Elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et elle, et lui, et sa maison, mangèrent beaucoup de jours. Frères et sœurs, elle n'était pas obligée de le croire en disant, « Oui, c'est vrai, tu as juste faim. Tu veux manger d'abord. C'est mon dernier repas. » Mais elle l'a cru. Elle l'a cru, et elle a fini par avoir, elle et son fils, plus qu'assez de nourriture. Je parlais de mon message, et un de mes amis me disait que l'une des choses qui a changé sa perspective en matière d'hospitalité, c'est d'avoir passé du temps dans un pays du tiers-monde. Pas dans une nation d'Israël où il y a de l'abondance. Parfois, nous prenons les choses pour acquises, mais ce qui a changé sa vision de l'hospitalité, c'est le fait de passer du temps avec les pauvres. Il a parlé de cette tradition qu'ils avaient, chaque fois qu'ils préparaient un repas, c'est-à-dire tous les jours si je me souviens bien, ils préparaient toujours un plat de nourriture juste au cas où un invité viendrait. Ces gens avaient à peine de quoi faire 3 repas par jour, à peine de quoi manger, mais ils préparaient toujours un plat supplémentaire, un repas, au cas où un invité viendrait. C'est un état d'esprit différent. Ces gens n'avaient pas l'esprit de Dieu. Ils faisaient partie de leur culture. Cela faisait partie de leurs activités. Et il a dit que cela l'avait changé. Frères et sœurs, cette histoire m'a changé. Je n'étais même pas là, mais cela a changé ma perspective, tout comme cela a changé sa perspective. Il y a des leçons à tirer de tout cela. Frères et sœurs, donnez ce que vous pouvez. Lorsque vous êtes hospitalier, faites ce que vous pouvez. Il n'est pas nécessaire d'en faire beaucoup. Il n'est pas nécessaire de faire des folies. À bien des égards, cela a plus de sens quand ce n'est pas chic, parce que vous donnez en fonction de ce que vous avez. Soyez prêt à vous sacrifier pour prendre soin d'un invité. C'est à ce moment-là que c'est le plus difficile. Dieu, qui possède tout lorsque nous sommes prêts à aimer les invités, à aimer les étrangers, tout comme il aime les étrangers, prendra soin de nous. Dieu prendra soin de nous comme nous prenons soin des autres. Dieu a pris soin de cette veuve et de son fils. Ils avaient de quoi manger. Ils n'ont pas eu à s'inquiéter. Passez à la 4e édition de Roi 2. Voyons un autre bon exemple. L'hospitalité. 2e Roi, chapitre 4, reprenons au verset 8. 2e Roi, chapitre 4, verset 8, un jour qu'Élisée passait à Shunam, nous venons de lire l'histoire d'Élie, alors maintenant nous lisons l'histoire d'Élisée. Élisée passait à Shunam, et il y avait une grande femme. Cette femme était donc aisée. La première femme était pauvre. Elle n'avait pas grand-chose. Cette femme était différente. Était une grande femme et elle le força à manger du pain arrêté. « Je vais te chercher quelque chose à manger » ainsi, chaque fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger du pain. Ainsi, chaque fois qu'il était en ville, il savait qu'il avait un repas. Chaque fois qu'il passait, elle s'assurait qu'il avait quelque chose à manger, qu'on s'occupait de lui. Et puis elle a eu une idée lumineuse. Elle dit à son mari, « Voici, regardez, je vois que c'est un saint homme de Dieu, qui passe continuellement près de nous. Donc cet homme qui vient constamment, c'est un homme de Dieu. Il est différent. Faisons-lui une petite chambre, ajoutons une annexe à la maison, je vous prie, sur le mur. Et mettons-y un lit, une table, un tabouret et un chandelier. Et lorsqu'il viendra chez nous, il se tournera vers elle. Ainsi, au lieu de venir donner un repas à cet homme, nous allons lui construire une chambre. Et chaque fois qu'il viendra, il aura une place pour dormir, un tabouret pour s'asseoir, un bureau pour travailler et un chandelier. C'est cela l'hospitalité. C'est prendre soin de l'étranger. C'est aimer nos invités. Cette femme shunamite a donné de son abondance. Elle avait de quoi donner. Frères et sœurs, nous ne voulons jamais être trop bons ou au-dessus de l'accueil des gens ou de l'hospitalité. Je n'ai pas le temps pour cela. C'est aux veuves de le faire. Nous ne voulons jamais être au-dessus de cela. Et cette femme était engagée à long terme dans l'hospitalité. Elle ne se contentait pas de dire « D'accord, il est en ville. Je vais le nourrir. Je le ferai cette fois-ci. » Chaque fois qu'il venait, il avait quelque chose à manger. Et ce n'était pas suffisant. Nous allons construire une annexe pour qu'il puisse avoir un endroit où loger quand il vient. Elle s'est engagée à long terme dans l'hospitalité. Frères et sœurs, des leçons encore une fois pour nous tous. Aucun d'entre nous n'est au-dessus de l'hospitalité. Nous devons nous engager à long terme dans l'hospitalité. Nous devons nous engager à long terme. Nous devons également sortir des sentiers battus. C'est une idée qui sort des sentiers battus. Ce n'est pas quelque chose que les gens font habituellement. Lorsque nous sommes hospitaliers, nous devons sortir des sentiers battus. Soyez créatifs. Essayez de ne pas vous enfermer dans une routine. Luc 19. Passons à un autre bon exemple d'hospitalité. Luc 19. Commençons par le début du chapitre, Luc 19. Jésus entra dans Jéricho et la traversa. Et voici, il y avait un homme nommé Zachée, qui était le chef des publicains et qui était riche. Il s'agit donc des publicains, une partie très aisée de la société. Cet homme était le chef des publicains. Il est donc le chef des chefs. Il est le chef. Et au cas où vous n'en seriez pas sûr, il était riche. Zachée cherchait à voir Jésus qui il était, et il ne le pouvait pas, parce qu'il était de petite taille. Il était donc petit. Dans la foule, il ne pouvait pas vraiment voir. Il courut devant, et monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. Il était excité. Il voulait voir Christ. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux, le vit et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car aujourd'hui je dois demeurer dans ta maison. J'arrive. » Et il se hâta. Pensez à cet homme. Il était enthousiaste. Il voulait voir Christ. Il voulait le voir. L'entendre, savoir de quoi il retournait. Je vais grimper sur cet arbre pour bien le voir. Christ passe à un autre niveau. Il le regarde, l'identifie dans la foule et lui dit, « J'arrive. » Imaginez l'excitation de cet homme. Quoi ? Je voulais juste le voir, il se hâta de descendre et le reçut avec joie. Et quand ils le virent, c'est intéressant. Et quand ils le virent, donc, ok, vous choisissez ceci, quand ils le virent, ils murmurèrent tous en disant qu'il était parti pour être l'hôte d'un homme qui est un pécheur. Les gens ont remarqué. Lorsqu'il a ouvert sa porte et accepté Christ dans sa maison, les gens l'ont remarqué. Ils l'ont vu. Ce n'était pas caché. Dans ce cas, ils n'ont pas aimé. Zachée, debout, dit au Seigneur, « Voici, Seigneur, la moitié de mes biens, je la donne aux pauvres. Et si j'ai pris quelque chose à quelqu'un par fausse accusation, je le lui rends au quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut vient aujourd'hui dans cette maison, parce que lui aussi est fils d'Abraham. Nous allons vous traiter comme un fils d'Abraham. Nous allons prendre soin de vous parce que vous avez pris soin de moi. » Frères et sœurs, des leçons pour nous, Nous ne devrions pas être trop occupés pour être hospitaliers. Cet homme était le chef des publicains. Il avait des choses à faire. Il était riche. Il devait compter tout son argent. Je suis occupé, mais il n'était pas trop occupé pour être hospitalier. Il a pris le temps qu'il fallait pour être en mesure d'accueillir, ou bien, c'est Christ. C'était Christ. Il a ouvert ses portes. Il n'était pas obligé de le faire. Les publicains ne faisaient généralement pas cela. Ils ne s'associaient pas à cela. Ils ne s'attendaient pas à cela. Les gens voient quand nous sommes prêts à accueillir les autres. Les gens nous observent. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous le faisons, mais nous reconnaissons aussi, cependant, que les gens le voient. Les gens voient quand nous sommes ou ne sommes pas hospitaliers. Les gens le remarquent. Zachée n'a pas fait de l'hospitalité une affaire personnelle. Il n'en a pas fait une affaire personnelle. Il dit, « Je donne la moitié de mes biens aux pauvres. » Il ne s'agissait pas de lui. L'accent n'était pas mis sur lui. Il a fait en sorte que cela concerne les autres, et il était impatient. Il s'est hâté. Il était zélé, et Dieu l'a récompensé pour cela. Dieu l'a récompensé pour cela. Frères et sœurs, Dieu nous récompense pour notre hospitalité. Acte 16, encore un bon exemple. Acte des Apôtres, chapitre 16. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous regardez la Bible et vous vous dites, « Oh là là, il y a beaucoup d'exemples d'hospitalité. » Acte 16, verset 14. Acte 16, 14. Une femme nommée Lydie, marchande de pourpre, de la ville de Thyatire, qui adorait Dieu, nous a entendus. Le Seigneur lui a ouvert le cœur, Dieu l'a appelée, a ouvert son esprit, Dieu l'a appelée, et elle s'est occupée de ce qui avait été dit par Paul. Elle a été appelée et elle a écouté le ministre de Dieu. Dieu lui a ouvert l'esprit. Lorsqu'elle fut baptisée, elle a donc été appelée, elle a écouté la parole et s'est fait baptiser, et sa famille, toute sa famille a été baptisée, elle nous pria, en disant, « Si vous m'avez jugé fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison, et demeurez-y. » Et elle nous pressait. Elle s'appuyait sur eux, « Entrez. Entrez dans ma maison. Je sais que je viens d'être baptisé. Je sais que je sais à peine de quel côté se trouve le haut, mes entrées. Viens dans ma maison, apôtre, et les hommes qui sont avec toi. Entre dans ma maison. » Lydie était une nouvelle chrétienne et elle était déjà hospitalière. Elle n'est pas passée par « Oh, je dois suivre ce cours, ou je dois comprendre. Il faut que j'écoute encore quelques sommations avant de pouvoir être hospitalière. » Non. Elle a été accueillante dès le début. C'est une nouvelle personne. Lydie était audacieuse. « Viens chez moi, apôtre. » Elle n'a pas eu peur. Ses hommes avaient des besoins et elle a ouvert sa maison pour les satisfaire. Dans quelle mesure sommes-nous audacieux lorsqu'il s'agit d'être hospitaliers? Sommes-nous prêts à accueillir quelqu'un et à nous occuper de lui? Lydie a pris l'initiative. Frères et sœurs, nous devons prendre l'initiative, nous ne pouvons pas avoir peur, nous ne pouvons pas être craintifs. C'est une grande raison pour laquelle les gens ne sont pas toujours aussi hospitaliers qu'ils devraient l'être. Ce n'est pas toujours de l'égoïsme. Parfois, ils ont simplement peur. Je ne pense pas pouvoir le faire. Je ne pense pas être digne que quelqu'un me permette d'être hospitalier pour lui. Dieu ne nous a pas donné ce genre de crainte. Il nous a dit que nous devions être audacieux, prendre soin les uns des autres et nous voyons maintenant que Dieu s'attend à ce que nous le fassions. Raison de plus pour ne pas en avoir peur. Et d'être hospitalier au fil du temps. D'accord, vous avez une nouvelle personne. Elle est en feu. Je suis en feu. Je ferai n'importe quoi. Vous savez, je traverse un mur. Vous savez ce que c'est quand vous entrez dans l'église pour la première fois, je vais juste inviter tout le monde, et c'est très bien. C'est super. Mais avec le temps, êtes-vous toujours aussi zélé? Avec le temps, êtes-vous toujours prêt à être hospitalier? Est-ce que cela vieillit? Je l'ai déjà fait, j'ai assez servi. Ou continuez-vous à le faire? Gardez-vous la même passion, la même audace, la même volonté que Lydia? Frères et sœurs, ce sont là de bons exemples. Tous de bons exemples d'hospitalité. Mais nous pouvons aussi apprendre de certains exemples moins bons. Luc 10. Nous pouvons aussi apprendre des exemples qui ne sont pas si bons. Luc 10, célèbre récit. Luc 10, je vais lire plusieurs versets ici. Le mettre en place. Je vais le replacer dans son contexte. Luc, chapitre 10, verset 25. C'est un mauvais exemple d'hospitalité. Luc, chapitre 10, verset 25. Et voici qu'un docteur en droit se leva et le tenta, c'est ce que font les docteurs en droit, pas tous, mais certains. Il le tenta en disant, « Maître, il parle au Christ, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Christ lui dit, « Qu'y a-t-il d'écrit dans la loi ? Comment la lis-tu ?» Christ est donc très sage. Il sait qu'il parle à un avocat. « Comment la lis-tu ? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Christ lui dit, « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. Donc, si tu fais cela, tu auras la vie éternelle. » Le docteur de la loi décide de ne pas s'arrêter là, voulant se justifier, il dit à Jésus, « Qui est mon prochain ?» Alors, au lieu de laisser faire, « Eh bien, qui est mon prochain ?» Et je sais qu'il l'a dit ainsi parce qu'il le tentait. Ce n'était pas une question sincère. « Qui est mon prochain ?» Jésus répondit et dit, « C'est le célèbre récit. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu de voleurs qui le dépouillèrent de ses vêtements, le blessèrent et s'en allèrent, le laissant à moitié mort. Par hasard, un prêtre passa par là, et quand il le vit, il passa de l'autre côté. Il vit donc cet homme et dit, « Oh, je vais passer par là. » De même, un lévite, excusez-moi, qui se trouvait à cet endroit, vint et le regarda, il le vit donc aussi, et il passa de l'autre côté. Nous avons donc un prêtre et un lévite qui décident de ne pas intervenir. De toute évidence, ce n'est pas un bon exemple. Mais un Samaritain, qui faisait route, arriva là où il était, et, l'ayant vu, il eut pitié de lui. Sa réaction a donc été très différente. Il alla vers lui, pansa ses plaies, versa de l'huile et du vin, le fit asseoir sur ses bêtes, l'acheva et prit soin de lui. Le lendemain, au moment du départ, il tira 2 deniers et les donna à l'hôte, en lui disant, « Prends soin de lui, et tout ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai quand je reviendrai. Je m'en occupe donc. Tout ce que tu feras, tout ce que tu devras faire pour prendre soin de lui, je le couvrirai quand je reviendrai. Ce qui maintenant, c'est encore Christ, lequel de ces 3 pensez-vous avoir été le prochain de celui qui est tombé entre les voleurs? Puisque vous voulez savoir qui est mon voisin, qui, selon vous, était le voisin? L'avocat a répondu, celui qui a eu pitié de lui. Il a donc raison. Il a raison. Jésus lui dit, va et fais de même. Rappelez-vous la question, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Va et fais de même. Il y a beaucoup de choses qui ont mal tourné dans ce récit, beaucoup de choses dont nous pouvons tirer des leçons. Tout d'abord, l'avocat, le prêtre et le lévite avaient tous la mauvaise attitude. Ils étaient concentrés sur eux-mêmes. L'avocat essayait de faire trébucher Christ. Il connaissait la loi mais ne savait pas comment l'appliquer. Alors, qui est mon prochain? Il connaissait la loi tout de suite, mais il ne savait pas comment l'appliquer. Le prêtre, lui, n'a pas aidé. Quel est le travail d'un prêtre? Le travail d'un prêtre est d'aider les gens. C'est sa formation. C'est l'essence et le cœur de ce qu'il fait en tant que prêtre. C'est ce qu'il fait. Il n'a pas aidé l'homme. Il n'a pas été hospitalier. L'homme était clairement dans le besoin. Le lévite n'était pas différent. Il l'a vu et a dit, « Vous savez quoi? Je n'ai pas le temps pour cela. » Le lévite avait peut-être peur. Cet homme est battu là-bas. Il pourrait revenir, me battre et me voler. Il n'avait donc pas le temps de s'occuper d'eux. Mais ce Samaritain, ce modeste Samaritain, celui que les gens négligent, s'est arrêté. Il a pris le temps de s'arrêter. Il ne s'est pas réveillé ce jour-là en se disant, « Vous savez quoi? Je vais sauver quelqu'un qui a été battu. Je vais prendre mon temps, je vais passer la nuit avec lui. Je vais m'assurer qu'on s'occupe de lui. » Il avait probablement un plan complètement différent pour sa journée, mais il a vu quelqu'un qui avait un besoin, et il a décidé de s'en occuper. C'est une bien meilleure attitude. Il a fait don de ses ressources, de son temps et de son argent. Il s'est sacrifié pour prendre soin de l'homme qui avait un besoin. Voilà ce qu'est l'hospitalité. Frères et sœurs, nous pouvons savoir qu'il faut être hospitalier. Je pourrais me tenir ici, je n'ai pas besoin de vous convaincre que nous devons faire preuve d'hospitalité. Ce n'est pas difficile à vendre. Je n'ai pas besoin de vous convaincre, mais cela ne nous sert à rien de savoir qu'il faut le faire et de ne pas le faire. Si nous sommes comme l'avocat, nous connaissons la loi, mais nous ne savons pas comment l'appliquer, cela n'aide personne. Nous devons être accueillants envers tout le monde, envers notre voisin. C'est très large. Et nous pouvons être hospitaliers de différentes manières. Nous parlerons de ces différentes manières, mais nous devons avoir cette attitude envers tout le monde. Pas seulement quand c'est pratique, pas seulement envers les personnes que nous aimons ou dont nous pensons qu'elles méritent notre hospitalité. Nous devons voir plus grand. Nous devons aider les gens, surtout lorsqu'ils sont dans le besoin. C'est lorsque les gens sont au plus bas qu'ils ont besoin de nous. C'est là qu'ils ont besoin que nous les aidions. Cet homme a été battu. Il a été volé. Il gisait sur le bord de la route. Il n'y a pas plus bas que cela. Lorsque nous aidons les gens dans le besoin, cela fait la différence. Cela fait la différence. Pensez à. Le récit ne le dit pas, mais pensez à la reconnaissance de cet homme lorsqu'il a repris ses esprits et qu'il s'est demandé, que s'est-il passé? Oh, il y a un homme qui t'a amené et qui s'est occupé de toi. Il t'a enveloppé. Il était là pour vous, et en fait, il a laissé plus d'argent au cas où. Quoi? Pensez à la façon dont sa vie a été changée. Il est difficile d'être hospitalier lorsque nous sommes centrés sur nous-mêmes. C'est difficile parce que nous sommes trop occupés à nous concentrer sur nous-mêmes. Nous ne nous concentrons pas sur les autres. Nous ne voyons même pas le besoin. Rappelez-vous l'homme, il les a vus, il a vu, mais ces hommes n'ont pas vraiment compris et vu ce qui se passait parce qu'ils étaient tellement occupés à se concentrer sur eux-mêmes. Frères et sœurs, nous devons accepter d'être dérangés parfois lorsque nous sommes hospitalières envers les autres. Les solitaires, Les introvertis doivent aussi être accueillants. Vous ne pouvez pas vous contenter de dire, vous savez quoi? Je suis timide, donc je ne peux pas être accueillant. Non, cela ne marche pas comme cela. Nous ne pouvons pas nous laisser guider par la peur. Nous ne pouvons pas avoir peur. Ces personnes sont dans le besoin, et quand les gens sont dans le besoin, c'est là que nous devons faire le plus d'efforts. Encore un mauvais exemple d'hospitalité, il est intéressant de noter que vous n'avez pas à vous retourner. Nous continuons à lire. Cela sort du contexte du bon samaritain. Luc, chapitre 10. Lisons le verset 38. Comme il s'en allait, il entra dans un village. Il entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Christ a donc été invité dans cette maison, dans la maison de Marthe. Elle avait une sœur, appelée Marie, qui était assise aux pieds de Jésus et qui écoutait sa parole. Mais Marthe était chargée de beaucoup de services. Elle était très occupée. Occupée. Vous savez ce que c'est quand vous êtes hôte, vous êtes partout. Vous essayez de vous assurer que tout est comme il faut. Marthe, accablée par le service, s'approcha de lui et lui dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule pour servir. Fais qu'elle m'aide. Seigneur, ne vois-tu pas à quel point je suis occupée? Pourquoi la laisses-tu assise là ?» C'est ce qu'elle a dit. Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu te préoccupes de beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire, et Marie a choisi la bonne part, qui ne lui sera pas enlevée. » Marthe se concentrait sur les mauvaises choses. Elle était tellement occupée à être hospitalière qu'elle ne l'était pas. Avez-vous suivi cela? Elle était tellement occupée à être hospitalière qu'elle ne l'était pas. Elle se concentrait sur le mauvais endroit. Marthe en faisait trop. Elle en faisait trop. Qui est passé par là quand il s'est agi d'être hospitalier, d'accueillir et de prendre soin des autres? Qui est passé par là? On se prend tellement la tête à vouloir que tout soit parfait qu'on ne finit pas par apprécier le moment présent. En fin de compte, Marie, qui était simplement assise là, s'est montrée plus hospitalière que Marthe. Ça semble contre-intuitif, non? Comme, attendez une minute, Seigneur, faites qu'elle m'aide. Ce récit met en lumière un point très important en ce qui concerne l'hospitalité, et j'en ai parlé un peu plus haut. Nous sommes parfois tellement occupés à être hospitaliers que nous ne le sommes pas du tout. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne sont pas hospitaliers, je suis dans le même bateau, l'une des principales raisons pour lesquelles les gens ne sont pas hospitaliers aussi souvent qu'ils le devraient, c'est parce qu'ils rendent cela trop onéreux. Ils rendent les choses trop difficiles, trop dures. J'aimerais bien le faire, mais je ne peux pas construire une aile sur ma maison pour qu'Elisha puisse venir me voir et me dire, « Je ne peux pas le faire. » Le problème, c'est que nous finissons par ne plus être hospitaliers du tout. Frères et sœurs, au fond, c'est délicat parce qu'on peut avoir l'impression que, vous savez quoi? Je tiens tellement à mes invités que je ne vais pas en avoir. Et c'est délicat parce qu'on a l'impression d'être motivé par les bonnes choses. Mais si nous ne sommes pas hospitaliers, qu'avons-nous accompli? C'est là que les choses s'assombrissent, car est-ce que vous vous souciez vraiment de vos invités ou est-ce que vous vous concentrez en fait sur vous-même? Essayez-vous d'impressionner les gens? Essayez-vous de faire en sorte que tout soit parfait? Parce que quand je les reçois, ou si je leur offre ce repas, ou si je leur fais une faveur, il faut que ce soit parfait. Parce qu'ils doivent savoir que je peux. Je suis la personne la plus hospitalière de l'église. Essayons-nous vraiment de les impressionner? Est-ce vraiment motivé par l'orgueil? Ou sommes-nous simplement en train de trouver une excuse pour ne pas être hospitalier? Cela fait mal. Je dois me poser ces mêmes questions. Frère, si nous laissons ces obstacles se dresser sur notre chemin, nous nous apercevrons que nous ne faisons rien. Nous ne sommes pas aussi hospitaliers que nous pourrions l'être. Nous laissons tomber Dieu. Nous laissons tomber les gens qui pourraient avoir besoin de notre aide, et nous nous laissons tomber nous-mêmes. 1 Pierre, chapitre 4. 1 Pierre, chapitre 4, verset 9. 1 Pierre, chapitre 4, en fait cela commence au verset 8. 1 Pierre, chapitre 4, verset 8. Par-dessus tout, ayez entre vous un amour fervent ou de la charité. Car la charité couvre la multitude des péchés. Nous parlons de l'amour, qui est une préoccupation sincère pour les autres. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans rechigner. Cela me fait dire que l'on peut être hospitalier, mais que l'on peut le faire à contre-cœur. C'est possible. Parce que c'est dire qu'on est hospitalier sans le faire. Sans rancune. La rancune, c'est le fait de rouspéter. Si nous sommes hospitaliers, et je fais des guillemets, si nous sommes hospitaliers et que nous serons les dents tout le temps, qu'avons-nous accompli? Qu'avons-nous vraiment accompli? Et devinez quoi? Les gens s'en rendent compte. Les gens peuvent dire qu'ils ne voulaient pas vraiment faire cela. Elle l'a fait par obligation. Les gens peuvent voir que vous n'avez pas le cœur à l'ouvrage. Quand je n'ai pas le cœur à l'hospitalité, les gens le voient. Nous ne pouvons pas le cacher, même si nous pensons le faire. Et même si, d'une manière ou d'une autre, nous avons trompé tout le monde et que nous sommes juste un grand acteur, une grande actrice, ils ne peuvent pas dire que je fais cela à contre-cœur, Dieu peut le voir. Dieu le voit. Qu'avons-nous accompli? Vous devriez voir l'hospitalité sous un jour différent. Je la vois certainement sous un jour différent, en travaillant sur un message comme celui-ci. L'hospitalité et le fait de s'améliorer dans ce domaine requièrent des conseils. C'est ce que je fais. J'utilise la parole de Dieu pour vous guider. Il faut des compétences. Mais mon frère, j'espère que vous êtes enthousiaste. Cela devrait vous enthousiasmer. Alors, vous savez quoi? Je vais être plus hospitalière. Et ceux d'entre vous qui sont déjà hospitaliers, et vous êtes nombreux, vous savez, vous êtes mes héros. Mes héros. Je vous vois. Vous m'inspirez à faire ces choses. Continuez à le faire. Continuez à être hospitalier. Et même si vous êtes doué pour quelque chose, vous pouvez vous améliorer. C'est pourquoi j'appelle cela une compétence. Je l'ai choisi à dessein. Réfléchissez à ce qu'est une compétence. C'est un ensemble de tâches ou une série de façons de faire quelque chose pour l'accomplir. Dans ce cas, une compétence en matière d'hospitalité est quelque chose que vous pouvez, une série d'étapes que vous pouvez apprendre à faire. Nous apprenons des compétences. Ce ne sont pas des talents. Les compétences sont différentes. On apprend une compétence. Et même si vous êtes bon dans ce domaine, vous continuez à vous améliorer. On peut toujours s'améliorer. Nous pouvons toujours nous améliorer. C'est pourquoi je l'appelle la compétence de l'hospitalité. Nous voulons développer cette compétence. Et ce qu'il y a de bien avec les compétences, c'est que si l'on n'est pas très doué, on peut devenir bon. Et si vous êtes déjà bon, vous pouvez vous améliorer. Cela s'applique donc à tout le monde. Moi y compris. Pour développer les compétences en matière d'hospitalité, Il faut d'abord adopter une attitude. La bonne attitude. Matthieu 5. Mettons tout cela ensemble. Matthieu 5. L'art de l'hospitalité commence paragraphe une bonne attitude. Matthieu 5, verset 40. Matthieu 5, verset 40. Il s'agit ici d'une question d'attitude. Et si quelqu'un vous intente un procès? Imaginez que vous soyez poursuivi en justice. Ce n'est pas très agréable. Quelqu'un va me poursuivre en justice, et je ne sais pas si je l'aimerai beaucoup. Si un homme te poursuit en justice et prend ton manteau, qu'il prenne aussi ton manteau. 1. Et si quelqu'un te force à faire 1 kilomètre, fais-en 2 avec lui. Faire un effort supplémentaire. Vous avez entendu le terme. C'est de là qu'elle vient. Faire un effort supplémentaire. Nous devons être, c'est-à-dire avoir la compétence, la construction, la compétence de l'hospitalité, avoir cette attitude, nous devons avoir cette attitude d'être prêt à faire un effort supplémentaire, et je ne pense pas que ce soit une erreur si c'est avec quelqu'un qui vous poursuit en justice. Même s'il s'agit d'une personne avec laquelle il n'est pas facile de traiter, il faut faire un effort supplémentaire. Appliquez cela à l'hospitalité. Appliquez cela au don de soi. Comme Abraham. Rappelez-vous, il courait. Ces hommes sont arrivés. Il courait d'un endroit à l'autre. Faire le pain, couper le veau. Il a fait tout cela et il a regardé ces hommes prendre leur repas sous un arbre. Il a fait un effort supplémentaire. Ou bien l'eau a fait de la cueillette avec véhémence. Entrez, 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 non, nous resterons dans la rue. Non, entrez, 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 entrez. Et cela a marché. Ils sont entrés. Ils sont restés. 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, chapitre 3. Verset 2. 1 Timothée, chapitre 3, verset 2. L'évêque doit donc être irréprochable, mari d'une seule femme, vigilant, sobre, de bonne conduite, aimant l'hospitalité. J'ai choisi ce verset pour cette raison évidente. Accueillant. Là, cela veut dire aimer les invités. Aimer les invités. Le terme affection signifie que l'on aime ce que l'on fait. Vous aimez donc recevoir des invités. Vous aimez prendre soin de l'étranger. Vous vous souvenez? Étranger, invité. Frères et sœurs, nous devons aimer cela. Nous devons aimer être hospitaliers. Tite, chapitre 1. Tite, chapitre 1. Poursuivons notre lecture sur les qualités requises pour diriger l'Église de Dieu. Tite chapitre 1, verset 8. Tite chapitre 1, verset 8. Reprenons le verset 7, il vous semblera très familier. Car il faut que l'évêque soit irréprochable comme intendant de Dieu, qu'il n'ait pas de volonté propre, qu'il ne soit pas prompt à la colère, qu'il ne soit pas porté sur le vin, qu'il ne soit pas hargneux, qu'il n'ait pas le goût du lucre, mais qu'il aime l'hospitalité. Nous devons donc l'aimer. L'aimer. Nous devons l'aimer. Cela commence par le sommet. Les dirigeants de Dieu donnent le ton. Nous donnons l'exemple à suivre. Cela se joue dans le cadre des qualifications. Quand on lit cela, on se dit que c'est logique. Car si Dieu est hospitalier, il veut bien sûr que nous le soyons aussi. Ses dirigeants doivent l'être. C'est ainsi que les choses sont définies dès le début. Mais s'agit-il seulement du ministère? Est-ce que c'est seulement dans le ministère que je dois être accueillant et que les frères se contentent de rester assis, sans avoir à être accueillant? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Romains 12. Romains 12. Cela donne simplement le rythme. Ce sont les dirigeants qui donnent le ton. Romains 12. Romains, chapitre 12, verset 9. Romains 12, 9. Que l'amour soit sans dissimulation. Ce mot. Cela signifie que notre amour doit être sincère. Pas factice. Pas une mise en scène. Pas faux. Notre amour doit être sans dissimulation. Abhorrez ce qui est mauvais, attachez-vous à ce qui est bon. Soyez bienveillants les uns envers les autres, avec un amour fraternel. Vous vous souvenez? Philadelphiens, dans l'honneur, se préférant les uns les autres, n'étant pas paresseux dans les affaires, fervent en esprit pour servir le Seigneur. Réjouissez-vous dans l'espérance, soyez patients dans la tribulation, persévérez dans la prière. Distribuez ce qui est nécessaire aux saints, donnez l'hospitalité. Nous tous, frères, tous les membres du peuple de Dieu doivent aimer les invités. Être hospitalier. Désireux d'aider ceux qui sont dans le besoin. Il y a le mot « poursuivre ». Si vous réfléchissez à ce qu'est la poursuite d'une chose, vous la poursuivez, et si elle vous échappe, vous faites tout ce qu'il faut pour ne pas la perdre. Nous devons poursuivre l'hospitalité, pas seulement quand c'est pratique et que c'est comme si c'était juste là. Et c'est bien aussi. Mais quand c'est là-bas, nous devons être prêts à la rechercher. Il faut aller le chercher, s'en emparer. C'est un autre état d'esprit. C'est un autre état d'esprit. Nous avons donc adopté la bonne attitude. Nous avons la bonne attitude pour l'hospitalité. Maintenant, que faisons-nous? Qu'est-ce qu'on fait? Il faut rester simple. Surtout pour commencer, si vous n'êtes pas vraiment un, si vous vous considérez comme un grand adepte de l'hospitalité, gardez les choses simples. Vous vous souvenez de tout ce dont nous avons parlé? N'essayez pas d'en faire plus que ce que vous pouvez mâcher. Partez de là où vous êtes. Les petits pas. Petits pas. Ce sont les petites victoires. Données à partir de votre manque. Vous vous souvenez de la veuve de Zarphath? Elle n'avait pas grand-chose. Elle était en train de ramasser ses deux bâtons, se préparant à prendre son dernier repas. Il suffit de peu. Donnez de votre manque ou donnez de votre abondance. Si vous êtes comme la femme shunamite et que vous avez de l'abondance, donnez-la, ouvrez votre maison. Prenez soin des gens. Faites de belles choses pour les gens. Ne vous considérez pas comme trop bonne. Je ne peux pas me considérer comme haut, je suis au-dessus de cela. J'ai déjà servi. J'en ai assez fait. C'est aux autres de le faire. Soyez créatifs, soyez enthousiastes. Soyez enthousiastes. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 11. Nous ne lirons qu'un seul verset, d'où la nécessité de vous réconforter et de vous édifier les uns les autres. J'ai choisi ce verset pour ces deux mots. Se réconforter, s'édifier les uns les autres, c'est ainsi que nous devrions nous traiter les uns les autres, frères. Exemple. Que puis-je faire, Monsieur Winfield? Je suis en feu, je suis enthousiaste. Je suis comme Lydia, je suis prêt à le faire. Que dois-je faire? Frères et sœurs, ouvrez votre maison. Accueillez des gens. Nous venons d'avoir le privilège d'accueillir un couple dans notre maison pendant presque une semaine. Je ne dis pas cela pour me vanter. C'était un défi pour moi. Je fais partie de ces gens qui se disent, vous savez quoi? Je pense que je peux m'améliorer un peu dans le domaine de l'hospitalité. Vous êtes nombreux, je ne veux pas regarder dans n'importe quelle direction, mais vous savez qui vous êtes. Chaque fois qu'il y a une occasion d'être hospitalier, qu'il s'agisse d'accueillir ou de préparer un repas, vous êtes toujours au rendez-vous. Je vous admire. Tu es mon héros. À chaque fois. Frères et sœurs, c'est tellement inspirant à faire et à voir, plutôt. Mais quelle expérience enrichissante nous avons vécue lorsque nous avons ouvert notre maison à ces invités. Nous avons passé beaucoup de temps avec eux, nous avons appris à les connaître. Ils ont appris à nous connaître. C'était extraordinaire. Je savais que ce serait le cas, mais c'était encore mieux que ce que je pensais. Devions-nous faire certaines choses différemment le matin et pendant la routine? Devions-nous faire cela? Oui. C'était difficile. Non. Cela en valait la peine. Cela en valait la peine. Préparer des repas pour les repas partage. Pas toujours. Il s'agit simplement d'ouvrir votre maison. Préparer un repas pour le potluck. C'est faire preuve d'hospitalité. C'est investir de l'argent, du temps, des efforts, de la créativité pour apporter un repas afin que tout le monde puisse en profiter. C'est aussi une forme d'hospitalité. C'est quelque chose que nous pouvons tous faire. Conduisez les gens au service. Allez les chercher, proposez-leur d'aller les chercher. Proposez-leur de les emmener à un rendez-vous. Elles ne se sentent pas bien. Ils ont besoin d'aller là où ils doivent aller ou peut-être qu'ils dépendent des transports publics. Vous savez quoi? Cette fois-ci, je vais venir te chercher. À quelle heure puis-je être là? D'accord, à quelle heure dois-tu revenir? C'est une forme d'hospitalité que d'être là pour quelqu'un quand il est dans le besoin. C'est à ce moment-là que cela compte vraiment. Et pensez-y, lorsque vous passez ce temps avec eux et que vous les conduisez, que ce soit à des services ou à un rendez-vous, vous bénéficiez d'une précieuse communion fraternelle. Tout d'abord, ils sont tout simplement reconnaissants. Je vous remercie. Je l'apprécie. Merci de montrer l'amour de Dieu. Et vous pouvez partager. Vous vous souvenez, il y a quelques années, que nous servons des anges à leur insu. La personne qui donne l'hospitalité en profite autant, sinon plus, que celle qui la reçoit. Ne l'oubliez pas. Je ne peux pas l'oublier. Vous vous dites peut-être, vous savez quoi? Je suis dispersé. Je n'ai pas de frère près de moi. Je ne peux pas être hospitalier. Si, vous le pouvez. Vous pouvez appeler les gens. Vous pouvez les appeler au téléphone. C'est une forme d'hospitalité. Et si vous vous sentez seul ou s'ils se sentent seuls, vous les aidez. Passez un appel vidéo. Envoyez-leur un message. C'est une forme d'hospitalité. Lorsque vous vous réunissez avec des frères, nous devons le faire lors de la fête. J'ai entendu des histoires et beaucoup d'entre vous y sont allés, j'y ai participé. Ils invitent un groupe de personnes pour la fête. Ils ouvrent leur chambre d'hôtel, ils font sauter les portes, pas littéralement. Ils ouvrent leur chambre d'hôtel, ils font sauter les portes, pas littéralement, ils font sauter les portes et ils prennent un repas ensemble. C'est cela l'hospitalité. Lorsque nous célébrons les jours saints et que nous avons des services combinés, les gens, tout d'abord, la congrégation locale accueille les gens qui viennent, ou bien il y a un événement social. Frères et sœurs, il y a toutes sortes de façons de faire preuve d'hospitalité. Toutes sortes de façons. Soyez créatifs. Sortez des sentiers battus. Ce n'est pas forcément la même chose, mais n'oubliez pas la même chose. Ces choses-là comptent aussi. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2. Philippiens, chapitre 2, verset 4, verset à mémoriser ici. Chacun ne regarde pas à ses propres affaires, mais chacun regarde aussi aux affaires d'autrui. Je dirai brièvement, comme je le fais souvent lorsque j'aborde ce verset, qu'il n'y a rien de mal à s'occuper de ses propres affaires. Vous pouvez vous occuper de vous-même. Nous sommes autorisés à le faire. En fait, nous devrions le faire, mais il est dit qu'il faut aussi regarder. Nous ne pouvons pas nous occuper de nous-mêmes à l'exclusion de tous les autres, mais nous devons aussi nous préoccuper des besoins des autres, et le terme « autre » est très large. L'hospitalité n'est pas seulement due aux saints. Bien sûr, elle est due aux saints, mais pas seulement à eux. N'oubliez pas que nous devons aimer notre prochain. Qui est notre prochain? Tout le monde. Tout le monde est notre prochain. Nous devons faire preuve d'hospitalité envers tout le monde. Nous pouvons faire preuve d'hospitalité envers notre famille. Nous pouvons les accueillir et les recevoir chez nous. Nous serons peut-être les dents pour une raison différente lorsque la famille vient nous rendre visite, mais devinez quoi? Nous avons été hospitaliers. Ce n'est pas parce que nous allons dans cette église que nous ne pouvons pas passer du temps avec nos familles. En fait, nous devrions passer du temps avec notre famille pour que nous puissions laisser briller notre lumière et qu'ils puissent voir à quel point nous avons changé. Ce n'est pas le moment de les sermonner, mais ils peuvent voir à quel point nous avons changé, à quel point nous sommes différents. Si un membre de votre famille n'est pas dans l'église, mais qu'il vit avec vous, faites quelque chose de gentil pour lui, soyez hospitalier à son égard. Ne soyez pas méchants avec eux, même si parfois ils sont méchants avec vous à cause de vos croyances. Soyez gentils avec eux. Il y a une chose que j'ai entendu dire, et je trouve que c'est une bonne idée, c'est qu'ils offrent des cadeaux à leur famille en dehors des fêtes, du genre « Oh, vous pouvez offrir des cadeaux ?» Je ne le savais pas. Je croyais que vous ne fêtiez pas Noël, ce n'est pas Noël. Je te donne juste un cadeau. Je fais juste quelque chose de gentil pour vous. Frères et sœurs, c'est une forme d'hospitalité. Vous pouvez être hospitalière envers votre voisin, la personne qui vit à côté de chez vous. Ici, sur le campus, nous vivons à côté des frères. Il est évident que mon public ne se trouve pas dans cette pièce, mais vous pourriez vous montrer hospitalière envers votre voisin actuel. Proposez-lui de couper son herbe une fois. Et vous savez quoi? J'avais un peu d'essence en trop dans ma tondeuse à gazon, laissez-moi couper votre pelouse. Je ne sais pas s'ils accepteraient, mais je suis sûr qu'ils le feraient. Proposez-leur de couper leur gazon. Invitez-les. Vous faites un barbecue. Invitez-les. Vous savez quoi? J'ai du poulet en trop que j'ai fait cuire au barbecue. Pourquoi ne viendriez-vous pas en manger un morceau? Vous n'avez pas besoin de les inviter pour un repas, pour manger dans votre maison. Ils ne sont pas obligés de rester. Maintenant, ils pourraient se demander pourquoi vous êtes si gentil. Mais vous savez quoi? Il suffit de venir. J'essaie quelque chose de nouveau, apporter une assiette, empiler-la et passer une bonne journée. Croyez-le ou non, cette personne qui se dit « il est différent », elle est différente. Frères et sœurs, c'est une forme d'hospitalité. C'est quelque chose de créatif que nous pouvons tous faire. Soyez gentils avec vos collègues de travail. J'ai vu des gens le faire. Ils ont un bocal à bonbons sur leur bureau et les gens qui passent peuvent prendre des bonbons. Frères et sœurs, il y a toutes sortes de façons, toutes les façons créatives d'être hospitalier. En conclusion, l'essentiel est de l'intégrer dans ce que vous faites déjà. Il ne faut pas que cela devienne une rancune. L'hospitalité ne doit pas être un fardeau. Ainsi, nous pouvons le faire avec enthousiasme comme Abraham. Nous pouvons être remplis de joie comme Zachée. Nous pouvons être cohérents comme la femme shunamite. Bien sûr, nous pouvons nous concentrer sur les bonnes choses, comme Marie avec Christ, et non comme Marthe. Frères et sœurs, nous servons un Dieu hospitalier. Nous servons un Dieu d'hospitalité. Il veut que nous soyons hospitaliers. Et oui, cela demande des compétences, mais vous pouvez le faire. Je peux le faire. Nous pouvons y travailler. Nous pouvons nous améliorer. Frères et sœurs, développez l'art de l'hospitalité et plaire ainsi à Dieu.